Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mesdames et messieurs,
êtes-vous prêts pour la bagarre?
C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Non, parce que l'hippopotame, c'est quand même très très fort.
Messieurs, bienvenue au Fight Club.
Pas de combat, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris?
Bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast des oreilles espiègles et curieuses dans lequel on tranche toutes les rivalités, même celles auxquelles personne n'avait pensé. D'habitude, dans cette émission, on procède à des duels culture ou pop culture, mais aujourd'hui, ce sera un truel. Et oui, c'est un vrai nom, c'est un vrai mot, ça désigne un duel à trois, tout simplement. Avec la sortie de Spider-Man Far From Home, avec mon invité, on avait envie de faire une bonne bagarre entre les trois Spider-Man du cinéma de ces 20 dernières années, c'est-à-dire Tobey Maguire, Andrew Garfield et le petit dernier, Tom Holland. Alors, j'ai avec moi un authentique spécialiste de Marvel et des adaptations cinématographiques des créations de Stan Lee et Jack Kirby, Archéon, qui officie dans le podcast Les Clairvoyants. Salut Archéon, comment ça va ?
Impeccable, et toi ?
Bah écoute, très bien. Je suis chaud bouillant pour ce Spider-Man mêlé, là.
Pareil, trois, chaud patate.
Ouais, je me demande ce que ça va donner. Ça me fait un peu penser à la baston dans Présentateur vedette, où il y a tous les présentateurs qui arrivent les uns après les autres. Ça va peut-être être un peu pareil.
Ah, ça me fait penser à l'image, du coup, qui traîne beaucoup sur Internet avec les deux Spider-Man qui se regardent, qui se pointent du doigt. Du coup, t'en rajouteras un troisième à côté.
Exactement. Bon, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement les clairvoyants pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore et qui ont du coup la chance de pouvoir encore vous découvrir ?
Parfaitement. Alors du coup, les clairvoyants, c'est un podcast qui est hébergé sur le site geekzone.fr que je présente avec Faskill et Fox Monsieur, donc les deux acolytes, et on s'oriente principalement sur toutes les productions du Marvel Cinematic Universe. Donc du coup, ça va être les films, les séries ABC comme Agent of S.H.I.E.L.D. un peu moins maintenant, ceux qui nous écoutent savent que niveau qualité on n'est plus derrière trop, jusqu'à peu encore les séries Netflix aussi qui se sont arrêtées,
oui.
Et du coup chaque mois on va passer en revue les news qui sont passées autour, on va faire un peu de théorie crafting sur les derniers films qu'on a vus, faire un focus sur un personnage ou une organisation comme le S.H.I.E.L.D. ou Hydra, et quelques recommandations lecture pour aller avec tout ça.
Très bien, un podcast que je recommande très très chaudement.
Ah, merci.
Et que j'aime beaucoup écouter. Donc,
merci.
Bravo.
ça fait plaisir. Après, je suis juste l'homme de l'ombre, on va dire, derrière un peu. Surtout le taf, surtout Faskill qui fait un taf de montage absolument dingue. Et Fox qui a une connaissance, une mémoire de folie sur tous les comics. Et du coup, c'est super agréable à faire.
Bah écoute, c'est super agréable à écouter aussi. Donc, bravo à vous trois.
Merci.
Bon, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu te sentirais de présenter les trois protagonistes ?
Bien sûr. Alors, je peux pas faire à ma droite sur le ring ou à ma gauche sur le ring, ils sont trois, donc on va dire que c'est un cercle, on va dire en face de moi, le plus ancien des trois, celui qui a commencé avec Sam Raimi. Donc c'est Tobey Maguire, qui a commencé ça en 2002 avec le film éponyme Spider-Man. À ma droite, on va avoir celui qui a fait les films pour Mark Webb, qui est Andrew Garfield. Et à ma gauche, le tout jeune, le dernier, qui arrive en trombe avec le MCU, ça va être Tom Holland pour les films de John Watts.
Très bien. Alors on parlera pas des Spider-Man qui sont passés à l'écran précédemment, comme par exemple le Spider-Man japonais de la Toei qui avait un robot géant et tout ça. Et on parlera pas non plus des, c'était quoi, des téléfilms, je crois, qu'il y avait eu dans les années 70 avec Spider-Man qui montait aux immeubles, un peu comme, comme le Batman des années 60.
Puis les dessins animés, puis, dans puis des adaptations, il y en a eu énormément.
Et puis même le Spider-Man turc qui était méchant, enfin bon.
Putain,
on en a parlé sur Nanarland, sur le podcast de Nanarland.
J'avais oublié. Mais je crois que justement, c'est grâce à vous que j'ai découvert. Je me suis fait, mais qu'est-ce que c'est que ce perso, quoi. Et là, il m'était sorti de la tête pour c'est qui le plus fort.
Ouais, il faisait équipe avec un Captain America méchant aussi. Enfin, c'était assez particulier. Bref, donc nous, on va parler que des 3 des 20 dernières années, ceux qui ont quand même, je pense, le plus marqué tout le monde et dont on a envie de savoir lequel est le plus fort. Alors, comme à chaque fois dans l'émission, on va avoir 5 rounds, 5 critères qu'on va utiliser pour les départager. Le premier de ces critères est qui est le plus swag, qui a le meilleur costume, qui est le plus BG, bref, qui a le meilleur look. Alors, qu'en penses-tu ?
Alors ça déjà, ça a été... Quand tu m'as proposé l'émission, j'ai dû commencer à réfléchir à ce point-là. J'ai pas mal hésité, c'est vrai. Alors... On le verra après, mais il y a Andrew Garfield que j'aime plutôt pas mal dans le rôle. Pour moi, je l'ai mis de côté directement parce qu'il a un gros défaut sur sa tenue. Alors pourtant, elle est pas mal dans l'ensemble. C'est les yeux noirs. Et personnellement, Spider-Man, c'est les yeux blancs. Il faut qu'il y ait les grosses taches blanches sur ses yeux, relativement plus ou moins expressives suivant l'adaptation qu'on lit ou qu'on regarde ou qu'on écoute, n'importe quoi, vu qu'il a été fait un peu partout. Donc du coup, le match... Pour moi, il s'est joué entre Maguire et Holland.
Ouais.
Holland triche un peu, parce qu'on le disait hors antenne, il change de tenue 3 fois par film. Ouais. Il est aidé pour les faire aussi, parce qu'il y a Stark qui lui file un petit coup de main quand même.
Ouais.
Mais elles sont quand même plutôt classe, quoi. Celle d'Infinity War avec l'Iron Spider avec les bras en plus. Hein. Et Maguire a je vais pas dire la plus fidèle, parce que c'est pas un terme que j'aime beaucoup sur les adaptations, mais la plus proche de l'original, on va dire. Avec, lui, il a les yeux blancs, du coup, les couleurs qui vont bien. Je sais, c'est un swag, une classe qui correspond bien à Spidey, je trouve. Toutes les toiles qui lui traversent, qui ont été faites en post-production, en images de synthèse, ça lui demande un taf de taré en plus à faire. Mais ça lui colle un côté que j'aime bien.
Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que le costume de Garfield était effectivement pas mal. C'était peut-être une des rares choses positives dans ces deux films.
T'es dur.
Non, c'est des films qui sont vraiment durs à regarder, je trouve. Mais bon, bref, on en reparlera. Et mais ouais, les yeux noirs, c'était chelou.
Je suis pas le seul, du coup, ça fait bizarre. Parce que tu commences. Ouais. Son premier costume, en fait, c'est une cagoule et des lunettes de soleil. Et je me dis, merde, mais le mec, il est de nuit, quoi. Dans ses super pouvoirs, il n'y a pas vision de nuit, donc avec lunettes de soleil, il doit rien y voir, le pauvre. Et il continue là-dessus, il garde ses espèces de verres d'Oakley sur sa cagoule. Et ça me fait vraiment... Ça colle pas.
Non. Mais le premier costume de Tobey Maguire... Enfin, les premiers costumes ont été vraiment... l'esthétique globale des films de Sam Raimi, dont le chara-design et les costumes étaient vraiment chouettes, bien équilibrés, ça fonctionnait super bien. Après, la version noire dans le 3, c'était un peu plus tendax, je trouvais, mais bon.
Ouais, c'est pour se rapprocher un peu du côté Venom, c'est vrai qu'elle était... ouais. Alors moi, j'aimais beaucoup le design, mais ouais. Ça faisait un espèce de virage à 180 degrés sur les choses qu'on avait vues juste avant, qui correspond, remarque, avec la dualité avec Venom.
Oui.
Mais ça allait pas, quoi. Ça lui allait pas.
Ouais. Et après, écoute, moi je te rejoins. Hein. Je trouve que effectivement, les costumes de Tom Holland, les plusieurs costumes qu'il a, même celui dans le. Que ce soit le dernier, donc le Iron Spider, c'est dans le Endgame hein, qu'on le voit, c'est ça.
Iron Spider, elle commence dans Infinity War, en fait.
C'est celle faite
par Stark.
Ouais.
En nanotechnologie qui l'enveloppe.
Ah oui, c'est ça, oui.
Enfin, c'est du bling technologique.
Ouais. Non, c'est vrai que le passage où il est, le passage Infinity War où il est accroché au vaisseau, que le costume commence à prendre forme différemment et tout ça est quand même assez puissant. Donc, j'ai envie de dire, grâce à Tony Stark, Tom Holland peut remporter ce point.
Après, je sais qu'il y en a plein qui aiment pas le côté trop technologique des tenues d'Holland.
Mm-hmm.
Mais le enfin Spider-Man et plutôt Peter Parker, c'est un génie en soi qui s'est bidouillé. C'est lui qui a créé par exemple sa toile pour la version de Tom Holland. En tout cas, c'est lui qui a créé sa toile pour se balader de mur en mur. Donc ça me choque pas que qu'il a un drone sur le torse ou qu'il ait des petites c'est Stark qui l'aide aussi en plus, donc il ait des petites technologies comme ça de pointe. Alors qu'à côté celle de Tommy Maguire est plus terre à terre, on va dire, plus j'ai acheté mon spandex en ligne, j'ai récupéré ça comme j'ai pu, donc bon, je comprendrais qu'il y ait des gens. Je vais faire un disclaimer dès maintenant, en fait on en a parlé en off. Il y a certains avis qui sont les miens, si vous voulez taper dessus, tapez sur moi, tapez pas sur Martin. Je sais que des fois j'ai des avis qui divergent un peu, mais
ouais, mais bon, on s'en fout, on est là pour trancher dans le vif et faire couler le sang. Donc le sang coule une première fois et c'est Tom Holland qui remporte le premier round.
Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Deuxième round, qui est le meilleur acteur entre nos trois larrons? Qu'est-ce que t'en penses?
Ah, là aussi, ça a été dur, hein, parce qu'on en a discuté, j'ai beaucoup d'affect en fait pour Andrew Garfield. C'est un acteur que j'aime bien. Je trouve qu'il fait... encore une fois, je vais me faire taper dessus par les fans, mais je trouve que c'est lui qui fait la meilleure version de Peter Parker des trois, en fait.
Ouais.
Dans le sens lycéen, un peu mis de côté, un peu persécuté, qui galère un peu dans sa vie de tous les jours. Je trouve que c'est lui qui s'en sort le mieux. Parce que Maguire, lui, à part se faire tacler dans le réfectoire de son lycée, il lui passe pas grand-chose. Alors que Tom Holland, du coup, lui, ça, il a quelques potes. On sent pas en fait le côté persécution au lycée, le côté vraiment loser, on va dire entre guillemets, quoi. Et donc, du coup, pour moi, je trouve que c'est Andrew Garfield qui sort le mieux là-dedans. Ceci étant dit, ces films l'aident absolument pas, quoi. J'essaie de les défendre le plus possible, mais le pauvre, il a quand même fait deux films Amazing Spider-Man qui étaient pas top. Donc, du coup, Andrew Garfield a pas aidé par ces films, mais je considère quand même que c'est lui qui a fait la meilleure version. Après, sur les deux autres. Pour moi, Tom Holland, il quand même, surtout dans le dernier Far From Home, je sais que tu l'as pas encore vu, mais il fait des performances qui sont quand même plutôt classe par rapport au contexte du film, qui l'amène à avoir des révélations qui sont, enfin, il les joue très très bien. Mais Tobey Maguire avait une sensibilité, une espèce de, je sais pas dire, une dualité entre le loser et le mec vraiment très héroïque, mais j'ai du mal à noter la différence que je vais avoir entre les deux, mais j'ai toujours cet affect en plus pour Andrew Garfield qui, pour moi, correspond plus au Peter Parker que j'avais dans ma tête, en fait.
Bah écoute, moi j'ai envie de donner aussi le point à Andrew Garfield pour plusieurs raisons, parce que... Alors, il faut préciser quand même que je trouve que les trois sont trois très bons acteurs et trois très bons Peter Parker, chacun à leur manière, pour le coup. Enfin, je trouve qu'il n'y en a aucun des trois qui est à côté de la plaque.
Ah, tout à fait, ça c'est clair, ouais.
Tobey Maguire avait un côté un peu toujours ahuri, enfin dans le bon sens du terme, qui finissait un peu par me taper sur les nerfs quand même, que Andrew Garfield a pas trop effectivement, et que Tom Holland a repris un peu aussi, donc que je trouve un peu moins intéressant, un peu toujours ébahi de tout ce qui se passe, bon, c'est un peu toujours en train de brailler, et c'est un petit côté agaçant, je trouve, à la longue. Par contre, bon, c'est vrai que Tom Holland a marqué des points à la fin d'Infinity War, forcément, en termes d'acting.
il score très haut, ouais.
Ouais, mais bon, après, c'est sur un passage très iconique. Donc, bref, ouais, donc je trouve quand même qu'effectivement, Andrew Garfield livre peut-être une des meilleures performances, malheureusement pas aidée par ni les films, ni l'écriture de son personnage.
Ouais, ça c'est vrai, ça.
Après, Andrew Garfield aussi est un acteur que je trouve intéressant en dehors du monde de Spider-Man. Tobey Maguire, on l'a pas trop revu quand même après Spider-Man, si je me trompe pas. Enfin, j'ai rien qui me vient en tête là.
Il a fait Gatsby le Magnifique quand même. Mais ouais. Il était. C'était. Alors, le film est sympa, mais c'est du Maguire, mais sans plus, on va dire. Je sais pas si c'est vraiment investi dans le rôle ou quoi, mais enfin, ça m'a pas sauté aux yeux la performance de Maguire, non.
Mais alors, je sais pas toi, mais alors moi, je trouve que j'ai vachement de mal à voir des films avec des acteurs qui sont des rôles iconiques dans des rôles de super-héros dans d'autres films après, en fait. C'est hyper perturbant. Enfin, genre Robert Downey Jr., qui est pourtant un acteur extra, mais j'ai vachement de mal à le voir faire autre chose que qu'Iron Man maintenant, et ça me fait ça pour plein d'acteurs en fait. C'est un peu chiant. Le pire étant Chris Evans, dès que je vois faire autre chose que,
ouais.
Je parle même pas de la torche, mais que Captain America, c'est très perturbant quoi. Bref, c'est une parenthèse. Mais
c'est vrai que Donnie Junior est un peu à part parce ouais. qu'il a le charisme suffisant pour posséder le rôle dans lequel il joue, on va dire, en fait.
Ouais.
C'est un acteur qui a de la bouteille et qu'on peut peut-être détacher un peu plus facilement qu'un nouvel acteur comme Andrew Garfield, par exemple, qui n'était pas vraiment... Mais il avait quand même quelques rôles à son nom, parce qu'il a fait Social ouais. Network, je crois que c'était
ouais.
juste avant.
Ouais, ouais, ouais. Il était excellent dans Social Network.
Insus hein. aussi. Social Network, qui était très ouais. bon, ouais, en plus, ouais.
ouais. ouais.
Mais il était encore relativement peu connu, donc c'est vrai que sur une espèce d'icône de la pop culture qu'est Spider-Man, en fait, si l'acteur est jeune, en plus, il a besoin de l'être. C'est plus difficile de se détacher de lui quand tu vois ailleurs. Ouais.
ouais. Quelque part, pour la carrière d'Andrew Garfield, c'est peut-être une bonne nouvelle pour lui que ses Spider-Man n'aient pas perduré, parce que ça l'a peut-être évité d'être trop associé à ce rôle-là. Ce qui lui permet quand même derrière de tourner avec Mel Gibson, Scorsese et David Robert Mitchell. Quoi. C'est pas
vrai.
C'est pas trop mal quand même. Bon, ça lui donne le point du coup à notre ami Andrew Garfield. Tom Holland et Andrew Garfield à égalité après The Rand, qui l'eût cru?
C'est vrai. C'est vrai qu'Andrew Garfield, pas grand monde l'aime, le pauvre. Hein.
Ouais.
All right, I run out of patience. Underoos! Nice job, kid.
Thanks. Well, I could have stuck the landing a little better. It's just a new suit. Wait, it's nothing, Mr. Stark. It's perfect. Thank you.
Yeah, we don't really need to start a conversation.
Okay. Captain? Big fan of Spider-Man?
Yeah, we'll talk about it later. Just...
Hey everyone.
Good job.
Alors, passons aux choses un petit peu plus sérieuses. Qui a eu le plus de succès au box-office? Là, les chiffres vont parler. Les sous.
de l'argent sonnant et trébuchant, quoi. On parle en dollars, là.
Ouais.
Le plus gros succès, mais, alors, Sam Raimi triche un peu parce qu'il a fait 3 films. Mais ouais. Attention, il y a un twist. On verra après. Après, Amazing Spider-Man, bizarrement, on n'arrête pas de dire que les films sont pas top, mais ils sont loin d'avoir fait des flops.
Ouais.
Parce que les deux, par exemple, sont aux alentours de 200-230 millions de budget. Et le plus petit qu'ils aient rapporté, c'est 700 millions de dollars en mondial, je parle. Donc ça reste quand même plutôt honnête.
Ouais, ouais, ouais.
Tout ce qui est les films du MCU, donc Spider-Man Homecoming, ils ont des budgets qui sont plus petits que les autres productions. On est en 175 millions et 160 millions pour les deux respectivement. Et on a donc Far From Home, bien sûr, on peut pas le dire actuellement parce qu'il est encore en exploitation, donc, mais il est quand même déjà à 635 millions. Ce qui est assez fou parce qu'il est sorti il y a 2 semaines.
Ouais,
c'est ça
ouais.
Ce qui est quand même relativement dingue. Homecoming qui place la barre à 880 millions. Donc encore une fois, on va pas dire que c'est un flop non plus. Mais il faut savoir quand même que les films les films Spider-Man de Sam Raimi, le premier, celui de 2002, c'est le premier film au monde, inflation comprise, à avoir dépassé les 100 millions de recettes au premier week-end d'exploitation. Je trouve ça juste hallucinant quand même.
Ouais,
je trouve ça juste hallucinant.
Ouais.
Donc on a une petite... Sam Raimi commence à pointer la tête vers le podium avec... Enfin, plutôt Tom Holland, parce que c'est lui qui est sur le ring, quoi. On est sur sparring partner derrière. Mais t'as relevé un point auquel j'avais pas pensé, c'est que y a un deal MCU derrière les films. Alors, les gens vont dire qu'on triche. Il y a un deal MCU derrière les films de Tom Holland, et il est quand même apparu dans Endgame Infinity War, qu'ont respectivement fait dans les 2 et 3 milliards chacun. Ce qui, quand même, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais qui explose le plafond en termes de box office pour les deux. On triche un peu, on triche un peu. Mais je pense que du coup, la palme est là, quoi. Ben, on a les films de MCU, les films de Tom Holland, qui font partie du Marvel Cinematic Universe. Donc il a apparu à la fois dans Captain America Winter Soldier et dans les deux derniers Avengers. Donc ça fait que niveau box-office, on est... Je pense que le tout cumulé, on doit approcher des 5-6 milliards de dollars, peut-être, un truc du genre. On n'a pas de bien loin. on triche un peu, hein. Bon.
Ouais.
Mais il est dedans. Techniquement, il est dedans.
Il est dedans.
Donc,
il est dedans. Mais il porte pas le film. Donc, moi, je propose un acte de réconciliation. C'est de mettre un point à Tom Holland et un point à Tobey Maguire, puisque on va dire que, si on compte pas les Avengers, c'est Maguire qui gagne en box-office. Si on compte les Avengers, c'est Tom Holland qui gagne. Que serait Spider-Man, que seraient les Avengers sans Spider-Man, hein? Bon, donc on leur met un point chacun et puis
moi ça me paraît fair play.
Voilà,
ça me paraît fair play, surtout quand même faut pas oublier que les Spider-Man avec Tobey Maguire et Sam Raimi quand même ont bien propulsé l'exploitation des comic books au ciné, donc
ouais.
Faut leur rendre quand même, rendons à César ce qui est à César.
Ouais. Je suis d'accord.
Comment va-t-on appeler ce gars ?
Docteur Octopus.
Minable.
Oh, la pieuvre par neuf.
Minable.
Docteur Strange.
Ah, ça c'est mieux. Mais c'est pris. Minute, ça y est. Docteur Octopus.
J'adore.
Évidemment. Docteur Octopus, le méchant du jour. Doc Ock.
Génial.
Vous voulez une augmentation ? D'or.
Alors, on va pouvoir passer au point suivant, qui va être un petit peu plus subjectif. qui a les meilleurs bad guys? Lequel de nos trois Spider-Man s'est frité avec les meilleurs adversaires?
Alors déjà, on a partagé juste avant, on a la même déception. Encore une fois, on va taper sur le film Andrew Garfield, mais on a la même déception sur Rhino,
ouais.
Dans Amazing Spider-Man 2, qui avait été teasé un peu partout. On avait dit Rhino, c'était Paul Giamatti qui avait le rôle.
Ouais.
Et on a eu la même déception de se rendre compte qu'il apparaît quoi 3 minutes à l'écran, qu'il sert strictement à rien.
Ah puis
et on était un peu déçus quoi.
Et puis enfin c'est quand même c'est le cut de fin d'un film le plus improbable que j'ai jamais vu, je pense, enfin en tout cas sur un film de ce standing là quoi. Enfin j'ai jamais vu ça en fait, tu démarres une scène d'action et tu coupes au milieu en fait et c'est la fin du film, c'est surréaliste quoi. Et puis bon,
je pense qu'ils avaient
fin,
des
quoi.
Plans encore derrière, peut-être qu'ils sont tombés. Ils avaient les plans Sinister Six, c'est peut-être.
Ouais.
Donc ils ont dû se dire bon, on va essayer de mettre ça en place comme on peut.
Ouais. Ouais.
Malheureusement. Mais... C'est vrai, je connais pas ton affinité avec tous les méchants, l'univers Spider-Man, etc. Je sais pas si t'as des méchants qui te plaisent plus que d'autres.
Sam Raimi a été quand même très très bon sur les méchants. Entre Willem Dafoe qui était un Green Goblin assez performant quand même. D'ailleurs, j'ai vu Aquaman il n'y a pas longtemps et j'étais persuadé que... Enfin, désolé, je vais spoiler un peu Aquaman, mais bon, je pense qu'on peut. J'étais persuadé que Willem Dafoe allait finalement être un traître au bout d'un moment et j'étais étonné qu'il soit vraiment gentil jusqu'au bout.
Mais ça c'est symptomatique au pauvre Willem Dafoe. Quoi. On a toujours l'impression qu'il va être méchant.
Ouais, et non, finalement, non. Donc Willem Dafoe était vraiment cool. James Franco était vraiment bien aussi. Et le meilleur d'entre tous, c'est que je suradore, c'est évidemment Dr. Octopus. Le Dr. Octopus d'Alfred Molina, qui est en plus un acteur que de base j'aime vraiment beaucoup. Il y a un rôle qui a un rôle mineur de sa carrière, mais c'est dans Coffee and Cigarette de Jim Jarmusch, qui est un film à sketch et où en fait il joue son propre rôle et il découvre qu'il est cousin avec l'acteur anglais Steve Coogan, et donc on le voit aller voir Steve Coogan en disant j'ai fait des recherches généalogiques, on est cousin et tout, puis l'autre il s'en fout complètement, enfin c'est assez génial. C'est vraiment ce segment là de Coffee and Cigarette, c'est cool. On le voit aussi on le voit pas mal dans de films de Jim Jarmusch, Alfred Molina. On l'a revu récemment dans l'excellentissime série de David Simon, Show Me a Hero, qui est une mini-série en 6 épisodes de David Simon, le créateur de The Wire. Et cette série est vraiment remarquable. Et Alfred Molina a un rôle vraiment hyper intéressant de politicien populiste, mais avec un peu plus de nuances que ça, qu'on découvre au fil des épisodes. Bref, donc j'aime beaucoup Alfred Molina, donc j'aime beaucoup les méchants de l'univers Spider-Man. Après, je vais te laisser un peu la parole pour développer, mais on a un peu le même dilemme qu'avec le box-office, c'est que si on commence à considérer les méchants des Avengers, bon, on a Thanos, qui arrive et le Thanos de Infinity War, c'est quand même un des méchants de comics, enfin d'adaptation de comics les plus fins et subtils qu'on ait vu à l'écran. Depuis longtemps, donc ça serait vraiment pas fair play parce que c'est pas un antagoniste de Spider-Man quoi.
Mais après on a quand même sur Homecoming, on a quand même Vulture qui est fait par
tout à fait.
Michael Keaton, qui est quand même
tout à fait
oufissime aussi. La
ouais,
scène
c'est vrai.
Où Peter va récupérer la fille de
ouais.
Vulture pour l'amener au bal de promo.
Ouais.
et que les deux sont en train de se jauger du genre je sais qui t'es, toi aussi ouais. Tu sais qui je suis. Cette scène est juste magnifique.
Ouais, ouais. Non, c'est vrai, là, je suis archi d'accord.
Après, y a quand même, tu parlais de Molina, c'est vrai que moi, Spider-Man 2, c'est un très très bon film quand même. On peut dire ce qu'on veut sur le 3 et le 1 qu'il y a derrière. Spider-Man 2, c'est celui où on commence à avoir le... Bah, le mec est un peu rodé, mais il a quand même des problèmes à côté parce qu'il essaye de... Bah, il veut marier Mary Jane, mais il sait pas comment trop lui demander. Il commence à galérer avec son taf, il a des petits soucis avec ses pouvoirs. Et dans le tas, on a quand même Alfred Molina qui lui sert à la fois de mentor, en fait, parce qu'il le prend sous son aile pour toute la partie Peter Parkeresque, on va dire.
Ouais.
Et de l'autre côté, qui pète totalement un câble et qui devient la némésis quand même de Spider-Man. Donc on a ces deux oppositions que je trouve tellement intéressantes et tellement bien orchestrées par Sam Raimi et tellement bien interprétées par Molina.
Ouais, absolument.
On a parlé aussi du bouffon vert, William Dafoe, sa scène où il se parle tout seul au miroir, qui est juste... Enfin, du coup, pour moi, c'est cette scène-là qui fait qu'à chaque fois que tu vois William Dafoe au ciné, tu te dis, ce mec, il est méchant. Il a la tête pour, quand même. Il a les expressions pour, il a la voix pour. Et quand il se parle à son miroir, ou d'un côté, il a une espèce de petit syndrome du Gollum, où il se regarde d'un côté, où il est très peu, très apeuré, très machin, et d'un coup, bah, il se crie dessus, il se fait peur. Enfin, les deux placent la barre super haut, quand même. Mais ouais... On parlera pas d'Andrew Garfield, encore une fois, on va lui taper dessus, le pauvre.
on aura la gentillesse de pas parler de Jamie Foxx.
Oh là là, Jamie Foxx en électro, quoi. Oh mon dieu.
Ouais.
On va pas trop lui taper dessus. Je trouve que l'interprétation de Kurt Connors, donc le lézard, est pas trop dégueulasse
il est pas mal,
mais ça se finit sur un
putain, avec le plan de transformer tout le monde en crocodile et tout ça, c'est pas possible.
Mais surtout la fin, c'est où chaud, son plan tombe à l'eau et d'un coup t'as l'impression qu'il était amnésique, il fait ah mon dieu qu'est-ce que j'ai fait, et il devient gentil. Pourquoi pas. Puis même le fils Osborne par je sais plus comment il s'appelle, le mec Diane, je crois.
Ah oui,
le mec qu'on voit dans le film de Besson sur Valérian, je crois.
Oui,
c'est lui qui joue Valérian,
oui, c'est lui. Ouais, c'est lui, c'est lui. Ouais, tout à fait.
qui a une version Norman Osborn qui est, enfin, plutôt du fils Osborn qui est assez spécial.
Ouais.
Mais du coup, ouais, donc, comme tu le disais, si on compte Thanos, encore une fois, on va tricher un peu comme on a fait avec le box-office, si on compte Thanos, la barre se place tellement haute. Enfin, personnellement, je trouve que Thanos aussi, c'est un des meilleurs bad guys comics et adaptation de comics qui a été fait pour l'instant.
Ouais.
Mais faut pas oublier Vulture, quoi. Vulture est quand même, il est imposant. Mmh. C'est un héros, ce que j'appelle terre à terre, parce que c'est un mec qui a pas de pouvoir au final. C'est Joe Average, quoi, qui a trouvé quelque chose, comment l'exploiter, et qui en a fait son filon. Et qui arrive quand même à imposer le respect. Il tient Spider-Man qui, lui, a des pouvoirs en respect.
Mmh.
Et du coup, c'est, les deux sont difficiles à départager entre Maguire et Holland à cause de ça. Quand
même. Puis Vulture en plus, il a des motivations intéressantes, quoi. Il est, je suis méchant pour dominer le monde. Point barre, quoi. Il y a limite un discours social derrière, quoi.
Bah c'est vrai que Molina, lui, il tombe plus dans la folie, dans le sens où il a son projet qui part complètement en couille et ça le fait vraiment. Bah déjà, il a ses implants, ses bras qui le rendent dingue déjà. Donc il a l'aspect fou qui, je vais pas dire qui entache un peu, mais qui me parle moins que, comme tu disais, l'origine de Vulture, qui lui est vraiment, si je le fais, c'est parce que j'ai une famille, c'est parce que quand les Chitauri ont défoncé New York, j'avais plus rien et j'ai tout investi, puis j'ai tout perdu à cause du gouvernement. C'est vrai, comme tu le disais, il y a un message derrière qui peut parler à beaucoup plus de monde et qui est peut-être plus intéressant. Ouais.
Mais moi je donnerais quand même le point à Maguire pour ce qu'on a dit, hein, pour William Dafoe et Alfred Molina. Est-ce que on n'a pas parlé du Venom de Spider-Man 3 du coup, mais...
Venom encore c'est spécial, c'est en fait il a été un peu forcé par Sony dans le 3. Parce que si je dis pas de bêtises, peut-être que je me ferai corriger, mais si je dis pas de bêtises, en tout cas, justement, Raimi voulait plus utiliser Vulture dans Spider-Man 3 ou le projet de Spider-Man 4 qu'il avait après, qui a été transformé en Amazing Spider-Man. Donc du coup, c'est pas que le personnage est mauvais, parce que j'aime bien Topher Grace, c'est un acteur plutôt correct, on va dire, c'est un mec qui m'est sympathique, mais qui est tombé au mauvais endroit au mauvais moment, parce que le rôle a été relativement mal écrit.
Ouais, ouais.
Le personnage est dégueulasse en plus, quoi. Enfin, c'est un film sombre, ils te mettent un personnage sombre qu'on n'arrive pas à distinguer, c'est assez spécial.
Ouais, ouais, ouais.
Donc ouais, c'est...
Mais l'Homme des Sables est plutôt intéressant aussi, je trouve, dans le 3, même si esthétiquement, il a hyper mal vieilli à cause des effets spéciaux, mais je trouve qu'il a une écriture intéressante aussi.
Bah, il se rapproche de celle de Vulture, justement, qu'on a dans Homecoming, parce que c'est un mec qui... la mère lui est tombée dessus, alors qu'il pouvait pas trop... c'est pas trop sa faute, il fait ça pour sa fille qui est malade, en plus.
Ouais.
Mais le truc qui me fait rire, c'est que dans Spider-Man 3, il a le... La façon dont il disparaît à la fin comme un paix dans le vent, quoi, c'est un truc qui me fera toujours rigoler, quoi. C'est... Il n'y a pas de conclusion, en fait, et ça me dérange un peu.
Ouais. Non, c'est sûr.
Je sais pas si tu t'en rappelles, il est face à face avec Maguire.
Ouais.
Et je sais plus ce qu'ils se disent, un truc du genre, je vais me partir maintenant, si tu veux m'attraper, m'attrape-moi, je sais plus exactement ce qu'ils se disent. Et quand je dis qu'il part comme un paix dans le vent, c'est littéralement, il est en mode sable, et il part au-dessus de New York, emporté par le vent. Et ça m'a toujours fait... C'est une conclusion qui est un peu dommage pour le perso qui aurait pu être mieux, quand même.
Ouais, bah entre ça et... ça fait partie du comics, hein, mais les cloches et tout ça, machin, avec Venom, c'est vrai que c'était pas une très très belle façon de conclure une trilogie qui avait tellement bien commencé, mais bon.
Ouais, c'est... Ouais.
Bref.
Bon. Suffit en production.
Ouais. Bon, le combat est serré, enfin le round est serré, mais je pense qu'on va quand même mettre le point à Tobey Maguire.
Ouais, c'est très très serré, mais je pense aussi qu'on peut mettre à Maguire.
Ce qui nous fait un... Alors, j'ai pas vu Far From Home, donc j'ai pas d'avis du coup sur les méchants de Far From Home, mais je sais pas si tu penses que c'est des méchants de qualité.
Ah, moi je pense oui, non, mais les deux, j'ai évité d'en parler parce que j'essaie de naviguer dans les spoilers.
Ouais,
exactement. Parce que j'ai pas envie de nommer le méchant de Far From Home, mais oui. Je pense qu'il est, il se rapproche un peu de l'écriture de ce qu'on, encore une fois, ce qu'on discutait autour de Vulture, et il s'est amené de manière assez intelligente. Mais les performances de Molina et de Defoe sont quand même à mettre la barre un tout petit peu au-dessus, on va dire.
Ouais.
Ça reste très serré. Les deux ont vraiment des bad guys qui sont vraiment très très bons. Mais je pense que les performances d'acteurs de Molina et de Defoe mettent le point pour Maguire.
Très bien.
Crouch!
Just let me go.
Is that a knife? Is that a real knife?
Yes, it's a real knife.
My weakness, it's small knives.
Just let me go.
Anything but knives!
Oh, it's so simple.
That was cool.
What the hell is this? Webbing that I developed myself. I don't think you really want to know.
Come
right
on,
now.
Let me go!
One second. What the...
Stop, get off, man!
No!
Come on, let me go! Stop it! Dude, that isn't funny!
It is
kind
of funny,
help!
Bon, dernier round. Et alors là, ça va être aussi un peu subjectif, mais on va quand même essayer de s'appuyer sur des chiffres. Les Français veulent des chiffres. Qui a fait les meilleurs films?
Andrew Garfield, hein, désolé.
Ouais. Bon,
si tu nous écoutes,
on va tout de suite enlever Andrew Garfield de la course sur ce round-là. De toute façon, je pense que tout le monde a compris ce qu'on en pensait. Mais Rotten Tomatoes. Alors sur Rotten Tomatoes, bizarrement, il y a un des deux Amazing Spider-Man qui est pas si mal noté. Parce que j'ai une chose que j'ai du mal à comprendre, mais. Soit.
La surprise, l'effet de surprise.
L'effet de surprise, peut-être.
On va dire ça.
Voilà.
Dire ça.
Après, les films de Sam Raimi, les deux premiers en tout cas, ont des notes critiques qui restent très hautes avec le temps, malgré tout. Mais bon, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Alors, j'avais dit que je resterais impartial sur mon côté MCU fanboy, mais il y a quand même un point que je dois apporter. Je pense qu'un truc qui est au désavantage de Tom Holland sur le match, c'est qu'il y a une espèce de... Alors, je vais pas appeler ça une mode parce que c'est pas vraiment le cas, mais il y a une espèce de bashing, en fait, qui se met en place sur les films du MCU. C'est pas tous les films, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais on peut noter qu'il y a certaines reviews, certains sites qui vont dire, ah bah, c'est bon, ils commencent à nous saouler, le MCU, avec leurs films, leur univers partagé, machin. Et justement, vu aussi que ça fait partie d'un univers partagé, je pense que typiquement, Far From Home, qui tombe directement après Endgame, en termes de notes, en termes de box-office, en termes de réception, ça va pas franchement l'aider. Là où Spider-Man 2, il y a quand même un laps de temps qui s'est passé entre le premier et le deuxième. C'est pas un univers partagé. Il y a pas eu de grosse concurrence derrière. Il y a pas de fatigue autour de ce sujet-là, on va dire.
Ouais.
Donc je pense que c'est un truc à garder en tête quand même pour noter les films, on va dire.
Ouais. Non, mais alors, effectivement, ça, c'est un truc super important. C'est que les films du MCU, de manière générale, les uns indépendamment des autres, sont rarement des films, comment dire, complètement mémorables d'un point de vue cinématographique. Enfin, il y a toujours des éléments intéressants, d'autres choses qui vont être moins intéressantes, mais c'est toujours des choses qui vont prendre leur sens inscrites dans la MCU, et c'est là où les gens qui disaient, les gens qui découvraient le MCU avec Infinity War disaient, mais c'est nul. Bah oui, forcément, c'est comme si tu commençais une série par le season final, quoi.
C'est ça, il te manque deux épisodes avant.
Donc
forcément, c'est
ouais, forcément, c'était pas ça manquait de sens, mais du coup, c'était une conclusion parfaitement bien organisée, enfin bien tournée vers comment conclure neuf ans de films qui se suivent les uns après les autres. Après, on aime, on n'aime pas. Mais en tout cas, ça servait à tout agglomérer, quoi. Là où donc ce qui effectivement un gros désavantage pour merde, ce qui effectivement est un gros désavantage pour Tom Holland. Tobey Maguire, il a la chance d'avoir des films qui sont un univers qui est entièrement tourné vers lui, quoi.
Et surtout qu'il y a une époque où les films de super-héros commençaient juste à vraiment se lancer.
Ouais.
Parce qu'on avait eu Blade quelques années avant, on avait eu les X-Men qui se lançaient aussi, mais à part ça, à part quelques adaptations, je crois qu'on avait un Punisher avant aussi, mais qui était vraiment pas top.
Ouais.
Je suis avec Thomas Jane, je crois que c'était ce Paper-là, mais je suis pas sûr. Donc, du coup, il avait quand même plus... Il avait moins le regard porté sur lui, on va dire. Le premier, c'était vraiment une grosse surprise quand même, je pense.
Ouais, carrément. Donc là, comme ça, on serait tenté de dire bon, c'est Tobey Maguire qui va remporter le point, mais j'ai l'impression d'entendre quelqu'un gratter à la porte là, quelqu'un qui arrive
c'est
par
vrai.
La fenêtre. Est-ce que tu le vois aussi?
En plus, c'est vrai qu'on le voit, il commence à grimper le long des murs. Personne à lister encore. J'ai dit merde.
Bon,
est-ce qu'on aurait pas un striker caché?
Bah si, je crois qu'on a un striker caché qui s'appelle Miles Morales.
Hey guys,
Wanda.
It's Gwen, actually.
Oh, you know her. Very cool.
I'm from another dimension. I mean, another dimension.
Miles Morales, ouais, qui arrive avec Into the Spider-Verse, ou New Generation en français, je sais pas pourquoi.
Ouais, putain. Les titres anglais traduits par d'autres titres anglais, c'est un truc quand même... c'est particulier, quoi. Bref.
Parce que ça perd le sens du film, mais bon.
Ouais.
Mais ouais, celui-là qui... alors moi, le premier, qui m'a vraiment, vraiment surpris, qui m'a collé une grosse claque quand même. Ouais. Parce que on sort de deux franchises Sony autour de Spider-Man, les mecs ils commencent à se dire bon bah on va vous faire un film animé. Vous ouais. voulez du Miles Morales, bah on va mettre du Miles Morales. Hein. Vraiment ils vendaient pas ça super sexy au départ. Puis le cast a commencé à apparaître. Puis on a commencé aussi à avoir le nom des personnes qu'elle écrit derrière. Donc on a Phil Lord qui est quand même un mec plutôt rodé, qui fait des films plutôt solides quand même. Ouais. Enfin, on aime ou on n'aime pas, mais Lego Movie, quand même, c'est un bon divertissement. 22 Jump Street, 21 Jump Street, c'est du bon divertissement. Le mec, c'est
moi, j'aime.
Ouais, c'est des films un peu méta, un peu couillon, ouais. qui me font super rigoler, quoi. Et du coup, ouais, ils sont arrivés avec une technique qui est juste irréprochable. Ils sont arrivés avec un film, moi, qui m'a littéralement collé une claque, quoi.
Ouais. Je suis un peu moins... je me sens un petit peu éloigné de la hype autour de Spider-Verse. J'ai trouvé ça très bien, franchement très bien. Mais j'ai pas pris une claque. Juste, la technique était extraordinaire. Le pari était magnifique de ramener plein de Spider-Man différents, de les faire cohabiter, d'en faire mourir certains... c'était vraiment vraiment cool. Il y a Spider-Gwen que je trouve génial et qui est peut-être qui est une de mes versions préférées, je pense, de Spider-Man au cinéma. Après, je trouvais le scénario un peu en souffrance. C'est mon seul c'est le truc qui m'a fait un peu décrocher, en fait. Mais bon, au-delà de ça, je trouve que c'est une immense réussite. Et puisque nous avons préparé cette émission, je sais que tu souhaites donner le point de qui a fait les meilleurs films à Spider-Verse, et je ne m'y oppose pas, je valide. Je valide que Spider-Verse puisse passer, passer là, parce que autant... enfin, c'est une œuvre qui effectivement a la grandeur de prendre plein de choses très pointues et très intéressantes dans les comics et de les amener à un grand public, et je trouve ça très noble et très apprécié.
En fait, c'est moi la plus grosse claque qu'il m'a mis, en plus du fait que ça soit un film qui est très générationnel et qui parle directement à son public, en fait, c'est que ça reprend quasiment tous les points qui font ce qu'est Spider-Man, en fait. C'est-à-dire un ado qui est un peu perdu, qui cherche encore un peu, qui, bah, là, dans ce cas-là, qui débarque dans une école où il perd tous ses repères, qui, en plus de ça, juste à ce moment-là, récupère des pouvoirs qu'il dépasse totalement. Et on est vraiment dans, parce que Spider-Man, en fait, a été créé dans le sens où, c'est un super-héros, mais qui a des problèmes personnels. Puis c'est pas un adulte, c'est un ado, donc ça parlera au lectorat aussi. Et on retrouve ce côté-là dans Into the Spider-Verse, c'est ce qui m'a vraiment plu, en fait. C'est que du coup, pas mal de personnes pourront se projeter dans plein de petits morceaux, et ça aide à apprécier le film, on va dire.
Ouais, ouais, complètement. Ouais, carrément. Et puis j'étais content de voir Spider-Man noir, que j'aime bien la série des Marvel noir, donc ces itérations années 30 polar de 30 ou 50 des personnages de Marvel. Une série de comics que je trouve plutôt intéressante.
Un Spider-Man noir, ouais, c'est un super bon comic Spider-Man. Ouais. Si quelqu'un veut le lire, je conseille de lire Spider-Man noir, c'est clair et net.
Ouais. J'ai bien aimé Punisher noir aussi.
Ah, Punisher noir, oui, qui est vraiment, vraiment sombre pour le coup.
Ouais, pour le coup, ouais. Pour changer.
Déjà que le matériau de base est vraiment. Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais alors là, les mecs, ils éteignent tout.
Ça me fait penser au van de Lego Batman, justement, où ils disent je m'habille en noir ou en gris très très sombre.
Avec sa chanson Darkness, no parents.
Oh, putain, j'adore Lego Batman. Bref. Donc voilà, bah écoute, on va donner le point au Striker caché.
Ça me paraît normal.
Et voilà, paf, comme ça. Ce qui fait qu'on se retrouve mine de rien avec une égalité.
Et on a un ex-aequo, ouais.
On a un ex-aequo, du coup. Et comme dans cette émission, on ne termine pas sur des matchs nuls. Bon, en fait, si, c'est déjà arrivé, mais c'était des cas très, très particuliers, comme par exemple Sœur Emmanuel et Mère Teresa. C'était difficile. C'était compliqué de les séparer. Là, on va être obligé d'aller au tir au but pour départager Tom Holland et Tobey Maguire. Alors, traditionnellement, il y a une question qui est très souvent posée dans cette émission, qu'on n'a pas encore posée, c'est qui gagnera un combat à main nue.
Alors, un combat à main nue, ben déjà, les deux ont les mêmes pouvoirs. À une différence,
ouais.
C'est que Maguire, lui, il peut tirer ses toiles directement depuis ses avant-bras. Ce qui est une chose que j'ai jamais pigée, parce que je sais que Sam Raimi est un très 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 grand fan de comics. Et c'est la seule chose que j'ai jamais compris dans son univers Spider-Man, c'est pourquoi il avait choisi de faire ça à son Spider-Man, en fait.
Ouais.
Mais du coup, ça lui file un avantage.
Ouais.
Ça lui file un avantage. Mais parce que du coup, ils ont les mêmes pouvoirs. L'autre, il pourra pas, enfin, Tobey Maguire pourra pas tomber en panne de fluide, de recharge de toile.
Ouais.
Et donc, à l'usure, il risque d'avoir le pauvre Tom Holland, qui est en plus un petit peu plus jeune.
Ouais.
Est-ce qu'il est plus endurant, je sais pas.
Ouais. Ouais, et puis il a réussi à arrêter un métro avec ses pieds, tout ça.
C'est vrai que c'est classe, ça, quand même.
Alors que Tom Holland n'a pas réussi à récupérer le ferry, tu vois, qui était en train de sombrer.
Il était pas loin, mais il a essayé, il lui manquait une toile qu'il a ratée, c'est pas...
Ouais, mais c'est...
Après, Tom Holland va dans l'espace.
C'est le haut niveau... Ouais, c'est vrai, il va dans l'espace. Bon, c'est le haut niveau.
Dans
hein.
L'espace.
C'est le haut niveau, ça se joue à rien. Hein.
C'est vrai que l'erreur est vite impardonnable.
Bon.
Le pauvre, quoi.
Donc, physiquement, on va dire que dans une bagarre. En tout cas, s'ils se croisent dans la rue sans leur costume, c'est sûr que c'est Tobey Maguire qui gagne.
Ils sont en costume. Parce que du coup, avec leur costume, faut pas oublier que le pauvre Tom Holland, il peut voler aussi. Ouais. Vu qu'il a les ailes derrière et il a son Spider-Bro. Ouais. Il a le petit bot qui peut lui filer des coups de main.
C'est vrai. Mais peut-être
donc
que...
Donc du coup, on va partir du fait qu'ils n'ont pas, pas leur costume.
Ils se croisent dans la rue, vraiment... une bagarre qui démarre et paf. Leur costume est... Le costume de Tom Holland est en réparation, le costume de Tobey Maguire est au sale.
Et donc du coup, il a juste à lui faire une toile comme ça sur la tronche, il peut rien faire.
Ouais, il peut rien faire. Bon.
Incapacité directement.
Donc c'est Tobey Maguire qui remporte ce Spider-Man mêlée.
Ce brawl.
À la surprise générale, je sais pas, mais en tout cas, il le remporte. Eh ben, merci Archéon. Merci beaucoup.
Bah, de rien, merci à toi de m'avoir invité, c'était cool.
Bah, je t'en prie.
En espérant pas avoir dit trop de bêtises ou choquer trop de gens avec.
Oh, ça va.
Avec ce que j'aurais dit.
Ça va. On parle de comics et de films de super-héros, ça reste. Même si les gens parfois s'énervent sur ces sujets-là, ça reste des sujets où on peut se permettre de donner un peu nos avis. Des fois, je vais faire peut-être que je ferai des émissions. Plus tendax, tu vois, genre sur la situation au Proche-Orient ou des trucs comme ça, peut-être que là, ça va vraiment déclencher les passions.
Là, tu risques d'avoir peut-être quelques problèmes en fonction des avis que tu prends, c'est vrai. Du coup, ça me fait relativiser sur ce que je disais avant sur mon avis sur Spider-Man.
Sur Andrew Garfield. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
On peut me retrouver principalement sur Twitter, @archeon, mais après... À part des conneries de kaiju et des trucs sur les comics, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de passer me voir. Donc le mieux, c'est de passer sur geekzone.fr, d'écouter les clairvoyants, de venir sur notre Discord si vous voulez. Et je pense que c'est le plus intéressant où je vais être. Sauf si vous aimez les kaiju, dans ce cas-là, vous pouvez me suivre et vous serez très content du contenu que je propose.
Il est possible que qu'on te retrouve dans l'émission pour parler kaiju à un moment donné. Hein.
On a déjà... quand tu veux.
On a déjà parlé une fois de Godzilla, mais
j'ai... En plus, contre Cthulhu.
Ouais.
Ça c'était... je m'y attendais pas quand même. Celui-là il m'a surpris aussi.
Ouais.
Godzilla
ouais.
Contre Cthulhu, j'étais pas prêt.
Ouais. Bah moi non plus à vrai dire. Mais je crois que... Ça m'a ennuyé de voir Godzilla perdre un combat.
Ah mais c'est Cthulhu. J'aime beaucoup Godzilla aussi, ouais. Mais c'est Cthulhu quand même.
Ouais. Non, mais là c'était pas assez équilibré. Normalement à la pesée, tu vois, on aurait dû se dire non, vous êtes pas dans la même catégorie les gars. On aurait peut-être pas dû, on verra. Peut-être qu'on fait.
Tu sais ce que t'aurais dû faire ? T'aurais dû tricher comme on a fait pour tout à l'heure sur le box-office, sur les films.
Ouais.
C'est de faire qui est le plus fort, tu mets toutes les versions de Godzilla contre toutes les versions de Cthulhu.
Ah ouais.
Et je pense que là, il y aurait eu moyen d'avoir un point facile.
Ah ouais. Effectivement, peut-être qu'à tous sur lui, ils auraient peut-être pu gagner.
Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire un truc comme ça.
Bon, bah merci en tout cas.
De rien.
Donc vous pouvez aller voter sur c'estquiluplusfort.com pour votre Spider-Man préféré. Et puis réécouter toutes les anciennes émissions. Si l'émission vous amuse, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur iTunes. Hein, ça fait toujours du bien par où ça passe. Et à en parler à vos amis. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire.
Et soyez pas trop dur avec Andrew Garfield, on l'a été assez souvent.
Ouais, c'est vrai. Soyez gentil avec Andrew Garfield. Allez, merci à tout le monde et à bientôt.
Ciao.